Voilà, je remercie beaucoup Mgr Yves Baumgarten d'avoir permis la tenue de ce colloque familial pour les 10 ans du retour vers la maison du père de Mgr Henri Brincard. Et aussi de m'avoir invité à y participer. J'étais dans un supermarché en train de faire des courses quand vous m'avez appelé. et donc, je n'ai pas été très prolixe. Et je vous remercie de m'avoir fait cette confiance. Et je suis heureuse de retrouver ici mes chères sœurs, sœur Marie-Geneviève en particulier, qui m'a envoyée au puits et qui a la bonté d'être là aujourd'hui, sœur Anne-Marie, mes chères sœurs du puits aussi, et toutes les religieuses, toutes les personnes aussi avec lesquelles j'ai travaillé, comme sœur Marie-Danielle qui est en face de moi. Merci beaucoup pour tous les amis qui sont là. Merci de ceux qui, pour ceux qui sont venus de loin, comme Mireille. Merci aussi au Père de la Chaise-Dieu d'être présent. Donc, je suis heureuse de tous vous retrouver. Et puis, je rends grâce avec vous parce que finalement, ce colloque est une grande action de grâce pour les années d'épiscopat de Mgr Henri Brincard. Ça nous permet d'évoquer de bons souvenirs avec le père Marc Boninque aussi, de rendre grâce pour ce qu'il a été. Donc, le thème de mon intervention est Mgr Henri Brincard et la Vierge Marie. Et au moment d'aborder le sujet de cette causerie, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que chaque fois que Mgr Henri Brincard était appelé à prendre la parole sur la Vierge Marie, il me disait « Vite, 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 Sœur Marie-Pia, sortez-moi la citation du cardinal Journet ». Alors je me suis dit « Je la ressors, là, c'est pas possible, vous voyez, je peux pas faire autrement ». Donc Mgr Henri Brincard aimait beaucoup citer ce texte du cardinal Journet, qu'il avait fort bien connu à Fribourg. Et donc je vous lis ce propos. Voilà ce qu'il disait, Mgr Henri Brincard. « Ayant connu le cardinal Journet, j'exprimerai ma crainte en citant ce théologien éminent dans la sagesse, dont la sagesse était le fruit d'une profonde expérience du divin. » Et ensuite, Mgr Henri Brincard ajoute « Écoutons-le, donc le cardinal Journet, nous dire avec une âme d'enfant. Il faut trembler de toucher à ce mystère de la Sainte Vierge Marie. » C'est une chose profonde, très pure, très lumineuse. Et celui qui manque de ce qu'il faut pour s'en approcher, c'est le cas de chacun de nous, à cause de nos résistances, de la lourdeur de notre esprit, va l'abaisser, le déformer dans son optique particulière. D'où, venant du dehors, toutes sortes de méfiances, d'incompréhension. D'où aussi, de la part de ceux qui défendent le culte de la Sainte Vierge, le recours à des lieux communs fatigués, à une louange trop facile, qui n'a rien coûté intérieurement, parce qu'on ne sait pas déchirer le cœur pour essayer de comprendre. Il faut donc demander à la Sainte Vierge elle-même d'ouvrir nos cœurs, de les rendre transparents, pour que son mystère ne soit pas réduit en nous à notre mesure, mais que nous soyons, nous, changés dans sa lumière. Mgr Henri Brincard avait cette crainte filiale lorsqu'il s'approchait de ce mystère de la Vierge Marie. Puissions-nous imiter son exemple en prononçant et en écoutant cette conférence ? Évêque d'un diocèse marial qu'il se plaisait à qualifier de terre mariale, Mgr Henri Brincard disait avoir accepté la charge épiscopale parce que la Vierge Marie était aimée et priée sur cette terre. Et il ne manquait jamais une occasion de parler de la Vierge Marie. C'est ainsi que chaque fois qu'il ouvrait son courrier et qu'il recevait une demande d'apostolat liée à un sanctuaire marial ou ayant un lien avec la Vierge Marie, il acceptait automatiquement. C'était une promesse qu'il avait faite à la Vierge Marie de jamais rien lui refuser. Donc il acceptait et comme l'a dit quelqu'un, quand on l'entendait parler de la Vierge Marie, on se disait c'est la fin de son homélie. Donc il aimait évoquer la Vierge Marie à la fin de ses homélies. Donc, dans mon intervention, je vais évoquer quelques mystères de la vie de la Vierge Marie, pèlerine de la foi, et puis le culte à la Vierge Marie, et enfin la vie mariale, qui était un thème cher à Mgr Henri Brincard. Donc, je commence par Marie, pèlerine de la foi hier et aujourd'hui. Et tout d'abord par Marie, pèlerine de la foi. Monseigneur Henri Brincard a souvent vu en Marie une pèlerine de la foi. Ce n'est pas très étonnant, puisqu'il vivait à côté d'un pèlerinage marial. Et il est vrai aussi que le diocèse du Puy comprend une multitude de lieux de pèlerinage. Je n'en cite que quelques-uns. Notre-Dame de Pradelles, où il y a une petite statue de 60 cm de hauteur, qui se trouve dans la petite chapelle de l'hôpital, aujourd'hui chapelle Notre-Dame. Notre-Dame trouvée à la voûte Chillac, au cœur du Val d'Allier. Non loin de Saugues aussi, en plein Gévaudan, dans un lieu sauvage et difficile d'accès, se trouve le sanctuaire de la reine du Gévaudan et de ses montagnes. Notre-Dame des Tours, appelée ordinairement Notre-Dame d'Estour. C'est difficile d'accès, mais c'est tellement beau. Non loin de la Durande, il y a une petite église blanche et grise à flanc d'un château qui abrite Notre-Dame d'Autérac. C'est un lieu de pèlerinage très ancien. Et non loin d'Aurec, dans une petite chapelle, dans une très grande prairie, se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de la Faille. À Champagnac-le-Vieux, on honore Notre-Dame des Neiges. Et à Auzon, Notre-Dame du Portail. Et ce n'est qu'un échantillon de tous les lieux où la Sainte Vierge est aimée et honorée dans cette bonne terre du Puy. Autant de lieux de pèlerinage où la Vierge Marie est priée, honorée, de génération en génération. Mais bien sûr, on ne peut pas oublier la Grande Dame, Notre-Dame du Puy, mère de tous ces autres lieux de pèlerinage, où, dès le début du 5e siècle, après le concile d'Éphèse, la Mère de Dieu est priée sur ce mont à Nice. Au Moyen-Âge, le modeste sanctuaire du mont à Nice devient un haut lieu de France, un centre de pèlerinage presque à l'égal de Rome, de Compostelle ou de Jérusalem. Des foules entières sont venues prier la Vierge Marie, puisqu'on a même le Père Ollier a rappelé que pendant les jubilés, il y avait tellement de gens que les gens mouraient étouffés, vous voyez. Et beaucoup, on imagine mal ça, mais beaucoup de gens venaient y prier et pour obtenir de la Vierge Marie des grâces de consolation et de paix. Donc c'est un sanctuaire très ancien. Et dans la cathédrale de Notre-Dame du Puy, c'est assez particulier. Il y a aussi le siège épiscopal de l'évêque. Alors, comme l'a montré Jean-Paul Laval, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle a connu un immense regain d'intérêt sous l'épiscopat de Mgr Henri Brincard. Or, la Via Podiensis, c'est le nom latin de la route qui part du Puy-en-Velay, c'est la route la plus fréquentée. Elle a son point de départ dans ce sanctuaire marial, dans la cathédrale Notre-Dame du Puy. Et après cette mise sous la protection de la Vierge Noire, les jacquets, bourdons en main, s'élancent sur les pentes du mont à Nice et partent vers Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ce lieu de pèlerinage de la cathédrale fait beaucoup penser à la Vierge Marie pèlerine. Et lors de ses introductions, lorsqu'il a eu des interventions dans ces différents lieux de pèlerinage, qui sont tous placés sous le patronage de la Vierge Marie, Mgr Henri Brincard a très souvent orienté ses interventions et son propos dans le Concile Vatican II, et plus particulièrement dans le chapitre 8 de Lumen Gentium, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. C'était un paragraphe qu'il aimait beaucoup. Et la constitution Lumen Gentium commence par le mystère de l'Église, et se termine avec le chapitre sur le rapport entre l'Église et la Vierge Marie. Donc, le fait d'introduire à la fin de la Constitution Lumen Gentium un chapitre sur la Vierge Marie, comme chapitre de conclusion, montre bien que Marie est l'archétype de l'Église. Et dans Lumen Gentium, la Vierge Marie est décrite comme un signe d'espérance, et elle accompagne tous ses pèlerins, vous, moi, qui montons à la cathédrale ou qui en descendons, tout ce peuple de Dieu en route vers le royaume de Dieu. Alors, en s'inspirant de Lumen Gentium, Mgr Henri Brincard écrivait « L'amour maternel de la Vierge Marie la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas achevé ou qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse. Il continue en disant « Une telle sollicitude revêt la forme d'une aide que Vatican II caractérise brièvement en déclarant que la Vierge Marie est mère de Dieu et mère des hommes, et qu'elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. En effet, d'une part, la Vierge Marie, dit-il, est modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ, et d'autre part, cette mère incomparable représente et inaugure l'Église en son achèvement dans le siècle futur. C'est dire que l'Église contemple en la Vierge Marie ce que le Christ attend de son épouse. » Fin de la citation de Mgr Henri Brincard. Mais l'évêque Dupuy savait aussi, dans ses propos, souligner des aspects plus concrets et plus pratiques. Ainsi, il poursuit en disant « La Vierge Marie, observant la tradition du peuple d'Israël, a fait elle aussi l'expérience concrète du pèlerinage. Lorsqu'elle est montée à Bethléem, lors du recensement de César Auguste, lorsqu'elle a fui en Égypte avec Joseph pour protéger l'enfant Jésus, et enfin lorsqu'elle a accompagné Jésus et Joseph à Jérusalem lors des célébrations annuelles de Pâques. Mais aussitôt après, et là on reconnaît bien la spiritualité de Mgr Henri Brincard, il ajoute que la Vierge Marie a surtout vécu un pèlerinage intérieur, qualifié par lui de pèlerinage de la foi, à deux moments décisifs de sa vie, au moment de l'Annonciation et au pied de la croix de son Fils. Nous allons maintenant, brièvement, évoquer ces deux mystères de la vie de Marie, et tout d'abord le mystère de l'Annonciation de la Vierge Marie. Mgr Henri Brincard aimait parler de ce mystère de l'Annonciation faite à Marie. Et bien des diocésains gardent de profonds souvenirs de ses homélies et prédications le 25 mars, en la fête de l'Annonciation dont la cathédrale est titulaire. C'est la fête de la cathédrale et du diocèse aussi. Donc Marie à l'Annonciation. Au sujet de ce mystère de l'Annonciation faite à la Vierge Marie, il note dans une de ses conférences « Depuis le premier moment de son existence, Marie est enveloppée d'un amour unique, prévenant, miséricordieux et surabondant, un amour qui la comble de bienfaits. Elle est revêtue d'un manteau de magnificence. » En voyant le beau manteau que la Vierge porte en ce moment à la cathédrale, je me suis dit, en voilà un de ces beaux manteaux de magnificence. Et les sœurs me disaient qu'il y en a 44. Vous voyez, la Vierge Marie a une grande garde-robe ici. Et une belle garde-robe. Ensuite, le texte continue ainsi. À l'égard de cet amour divin, inouï et bouleversant, dans la pureté de son cœur immaculé, Marie n'est qu'accueil et don. Au jour de l'Annonciation, sa foi et son espérance creusent en elle de nouveaux abîmes, comblés aussitôt par l'immense amour que lui porte son Sauveur et son Dieu. Le Verbe se fait chair en elle, et Marie exprime l'allégresse de sa foi et de son espérance dans une prière où son fiat devient magnificat. Dans une autre intervention, Mgr Henri Brincard note, vous savez qu'il aimait beaucoup les anges, il en parlait souvent, il me disait souvent que j'avais d'ailleurs un ange gardien très débrouillard parce que je retrouvais toujours ses calottes, ses portables, tout ce qui était perdu. Il me disait « appelez votre ange gardien », il me disait « allez, très efficace votre ange ». Il aimait beaucoup les anges. À propos de Mgr Henri Brincard note, « l'ange Gabriel entre chez Marie. Cela signifie une arrivée très douce ». Mais une arrivée impressionnante. Marie est bouleversée, mais pas surprise, car toujours disposée à dire oui à Dieu selon le chemin qu'il aura choisi. Monseigneur Henri Brincard aimait à mentionner cette présence de l'archange Gabriel. Il était capable de faire toute une homélie sur la phrase « et l'ange la quitta ». Une fois, il a fait toute une homélie sur cette dernière phrase de l'annonciation du récit. Et il aimait aussi rappeler que près des grands sanctuaires mariales, comme Notre-Dame du Puy, se trouve souvent un lieu dédié aux anges, comme Saint-Michel d'Aiguille. Monseigneur Henri Brincard avait d'ailleurs reçu son ordination épiscopale le 2 octobre, en la fête des saints anges gardiens, et bien des fois, il a gravi les 260 marches qui montaient vers Saint-Michel d'Aiguille, afin d'y célébrer l'anniversaire de son ordination. À ce mystère de l'Annonciation, il se plaisait à lier celui de la Visitation, en remarquant qu'après cette visite inouïe du Fils de Dieu en elle, Marie n'était pas restée en prière, mais bien au contraire, qu'elle s'était mise en route immédiatement. Ainsi, écrit-il, « Exultant en Dieu son Sauveur, Marie se rend rapidement auprès de sa cousine Élisabeth. La vraie charité, l'amour en nous du Christ pour le Père et pour les hommes, est un amour orienté vers celui que Dieu met sur notre route. Un tel amour est doux. Il salue avec respect le prochain. » Fin de la citation. Ce mystère de l'Annonciation ne se comprend pleinement que lié à celui de la croix. Est-il même nécessaire de le rappeler en ce diocèse où un grand jubilé est célébré chaque fois que le Vendredi Saint tombe un 25 mars ? Marie à la croix. Ce mystère de Marie à la croix fait partie de la devise épiscopale de Monseigneur Henri Brincard, « Juxta crucem cum Maria », avec Marie près de la croix. À propos de cette expression biblique, « Marie près de la croix », Monseigneur Henri Brincard écrit « Marie est près de la croix. Marie est debout, ce qui signifie que sa douleur est offerte. » C'est-à-dire qu'elle contemple son Fils dans la foi et dans l'espérance. Elle suit l'agneau partout où il va. Marie est près de la croix, non seulement physiquement, mais elle est près avec son cœur. Pendant sa longue et douloureuse maladie, Monseigneur Henri Brincard a longuement médité sur ce mystère de la croix et de la souffrance. Il a longuement médité sur la phrase de saint Paul « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ », si bien qu'au retour de son dernier pèlerinage à Rome, alors qu'il avait rencontré Benoît XVI longuement, il racontait que le pape Benoît XVI l'avait écouté commenter « J'achève dans ma chair ce qui manque au Christ ». Toute sa réflexion théologique, il avait eu la grâce de l'exposer à Benoît XVI. Et le pape émérite lui avait dit « Écrivez, écrivez !» Mais il ne l'a jamais écrit, parce qu'il était bien trop faible, et puis on n'osait pas lui demander. Au sujet de la Vierge Marie à la croix, il écrit « Au Golgotha, Marie n'a pas d'autre appui que celui qu'elle contemple, comme l'agneau immolé et qui est tout pour elle. Elle fait sienne la parole de son Fils, « Demeurez en moi, comme moi, en vous. » Son silence est celui du cœur qui écoute et du cœur qui se livre sans réserve. Au pied de la croix, Marie participe par la foi au mystère bouleversant de ce dépouillement. C'est là sans doute la kénose de la foi la plus profonde dans l'histoire de l'humanité. Par la foi, la mère participe à la mort de son fils, à sa mort rédemptrice. Mais à la différence de celle des disciples qui s'enfuyaient, sa foi, celle de la Vierge Marie, est beaucoup plus éclairée. Au sujet de cette expression, « sa foi est beaucoup plus éclairée », Monseigneur Henri Brincard ajoute « Cette affirmation de Jean-Paul II nous fait comprendre que, d'une part, l'Immaculée avançait dans son pèlerinage de la foi à l'aide de lumières qui lui dévoilaient toujours plus les profondeurs du mystère de son Fils, et que, d'autre part, dans une nuit grandissante, elle adhérait avec amour à ce qui lui était montré sans aucune évidence. Au pied de la croix, Marie connaît la plus grande des souffrances, mais elle offre cette souffrance. » Et écrit alors Mgr Henri Brincard, « Dans cet élan d'amour, inclus dans le sacrifice du Christ, l'Église est alors engendrée. » L'évêque Dupuy fait enfin remarquer que, puisque l'Église est le fruit du labeur de la croix, l'Église est invitée à s'unir au sacrifice du Christ sur le calvaire, qui s'est livré librement jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le salut du monde. Enfin, il n'est pas possible de conclure cette partie sans parler du mystère de l'Assomption, fêté tous les ans au Puy par une procession qui attire dans notre bonne ville un immense concours de peuple. Vous savez que Mgr Henri Brincard allait aux périphéries dans ces moments, qui passait dans tous les bars, saluait tous les musulmans, tous les incroyants. C'était très évangélique. Et par moments, il disparaissait de la tête de la procession, ce qui fait que le service d'ordre était ennuyé et que Dominique allait le chercher pour le ramener, vous voyez, un peu au centre. Et on l'a déjà dit, il a beaucoup œuvré dans son épiscopat pour la rénovation de cette procession. Et il regardait toujours les chiffres. Quand ça a atteint 10 000, il m'a dit « Ah, 10 000 !» Vous voyez, on sentait qu'il était content. Et il a invité des cardinaux du monde entier. Chaque fois qu'il en trouvait un, il lui demandait de venir. Parce qu'il souhaitait donner un nouveau dynamisme missionnaire à cette procession mariale. Et ce qui était très touchant, c'est qu'il était très sensible à la présence des malades aussi. L'hospitalité diocésaine amenait sur des fauteuils roulants des personnes qui ne pouvaient pas faire la procession et qui étaient parquées dans un endroit de la procession. Et ils prenaient toujours un quart d'heure avant pour aller voir ces gens, saluer chacun, bénir chacun. Et il était très attentif à ces personnes. Alors écoutons-le nous parler de ce mystère de l'Assomption. Le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie nous montre notre avenir. Ce à quoi Dieu nous appelle, la vie éternelle, perçue non comme une abstraction, mais comme la réalisation de la plénitude de notre condition humaine rachetée par le Christ. L'Assomption est le signe de la résurrection de notre vie dans le ressuscité. Il écrit « La fête de l'Assomption sera donc pour notre diocèse l'occasion d'une méditation sur le mystère de l'Assomption et d'une communion particulière au Christ ressuscité et glorifié. » Donc, dans une deuxième partie, nous évoquerons le culte marial, sa piété mariale, le culte marial de l'évêque Dupuy. D'où tenait-il cet amour de la Vierge Marie? Tout au long de sa vie, Mgr Henri Brincard a été un fidèle et ardent propagateur du culte marial, bien avant d'arriver au Puy, mais l'arrivée au Puy n'a fait que décupler ses forces envers ce culte. Appelé à l'épiscopat par le pape Jean-Paul II, il se réjouissait du puissant renouveau de la piété mariale qu'il attribuait au pape polonais. Ainsi, dans une conférence, dans les années 2010, il écrit « À propos de ce renouveau, le pape Jean-Paul II a été l'artisan principal de ce renouveau de la piété mariale et Benoît XVI, avec sa grâce propre, poursuit le chemin de son prédécesseur. Plusieurs raisons expliquent la piété mariale de l'évêque Dupuy pour Marie. D'abord, sa famille, une famille tournée vers la Vierge Marie, Agnès et Hervé, ses neveux qui sont là et qui habitent dans la maison où il est né, me disait qu'il a souvent fréquenté le sanctuaire marial de Notre-Dame de Béhuard, où il y a aussi une Vierge noire. C'était prophétique, m'ont-ils dit. Sa maman, Béatrice, avait une profonde dévotion mariale qu'elle a su transmettre à son fils. Et à Savenières, d'ailleurs, Hervé et Agnès font des dessins où Mgr Brincard a fait des dessins de la Vierge Marie quand il était enfant, qui sont touchants de dévotion et qui sont beaux. Madame Brincard a amené son fils, par exemple, à l'île Bouchard. Et Mgr Henri Brincard parlait de temps en temps de sa maman. Ainsi, dans une conférence à l'île Bouchard, en 2004, il écrit « Au temps de ma première jeunesse, je suis venu avec ma mère à l'île Bouchard. Je me souviens fort bien être entré dans l'église Saint-Gilles, expérimentant alors la joie d'une prière intense et en même temps d'une douceur inouïe. Plus tard, je suis revenu. » Il faut se souvenir qu'à la fin de sa vie aussi, alors que c'est la dernière procession du 15 août qu'il fait en tant qu'évêque, et puis aussi parce qu'il est au bout de sa course, il est en haut des marches exsangues de la cathédrale. La procession vient de s'achever, il est très très ému. Il est devant toute la foule des pèlerins et il a enlevé sa calotte et il l'a mise sous le manteau de la Vierge Marie. Vous voyez, comme s'il remettait tout son épiscopat à la Vierge Marie dans ce geste fort émouvant. Alors, il a été aussi donc un propagateur de la piété mariale. Pendant de très nombreuses années, au nom de la Conférence des évêques de France, il a été l'évêque accompagnateur des œuvres mariales. Et à ce titre, il a prêché dans un nombre de lieux très nombreux où la Vierge Marie est apparue. Notre-Dame de la Prière, il connaissait très bien Jacqueline de l'île Bouchard et sa sœur Jeannette. Il les a souvent reçus à l'évêché. Notre-Dame des Victoires à Paris, Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de la Salette, pour laquelle il avait une dévotion particulière. Et il a beaucoup prêché sur Notre-Dame de la Salette, le père Marc le rappelait. Notre-Dame de la rue du Bac aussi, il donnait des rendez-vous au fond. Vous voyez, quand il avait des rendez-vous avec des gens, souvent c'était rendez-vous au fond de la chapelle de la rue du Bac. Oui. Déjà tout un programme pour la personne qui arrivait. Et à la fin de sa vie, il a participé, il était prédicateur pour le pèlerinage diocésain, et c'était la première fois où il devait prêcher. Et le Seigneur lui a épargné, enfin il a prêché d'une autre manière, parce que ce pèlerinage, il l'a fait en tant que malade et en fauteuil roulant. Ce qui fait qu'il a prêché, mais d'une autre manière, peut-être que celle que tout le monde attendait, et lui-même aussi. Alors, bien que grand dévot de la Vierge Marie, il avait toujours, quand on regardait ses poches de costume avant de les mettre au pressing, il y avait toujours des chapelets en bois qui traînaient là au fond, vous voyez. Donc, il était très dévot de la Vierge Marie, mais en même temps, il a toujours rapporté au Christ sa piété et sa dévotion mariale. Et sa doctrine a toujours mis en valeur l'unique médiation salvifique du Christ. Dans ces lieux mariales, où ont lieu souvent des apparitions de la Vierge Marie, il a aussi expliqué ce rôle des apparitions de la Vierge Marie avec une grande finesse théologique. À ce propos, je vous cite une conférence qu'il a donnée en 2001 sur la juste place des apparitions mariales dans le culte catholique. Donc, à propos de la place des apparitions mariales dans le culte catholique, Mgr Henri Brincard relève deux points. Le premier a trait au rôle maternel de la Vierge Marie à l'égard des hommes. Il écrit « Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ ». Il en manifeste, au contraire, la vertu. Et il pose cette question, Dieu n'a-t-il pas voulu réaliser son œuvre de salut au moyen de médiation qui, sans porter atteinte à sa transcendance, sont l'expression à la fois de la puissance de son amour et de la surabondance de sa miséricorde. Puis il continue, cette question en soulève une autre. Dieu n'a-t-il pas voulu établir un lien entre la maternité divine de Marie et sa maternité sur l'Église ? De telles interrogations sont au cœur du débat œcuménique. Puis l'évêque Dupuy montre que l'amour maternel de la Vierge Marie la rend attentive aux frères de son fils dont le pèlerinage n'est pas encore achevé. Ensuite, il voyait dans cette apparition mariale un signe d'espérance. Écoutons-le expliquer. Il écrit « Après cette brève évocation de l'orientation christologique et ecclésiale du culte marial, il est temps de faire quelques remarques sur la juste place des apparitions mariales dans le culte catholique. À ce propos, je formule le vœu que mes propos ouvrent entre nous un dialogue constructif et enrichissant. Première remarque, dit-il, une apparition mariale est avant tout un signe d'espérance. Ce signe est proposé aux fidèles du Christ, tandis qu'ici-bas, ils pèlerinent dans l'Église avec la foi. Ce signe est donné sous la forme d'une intervention particulière et sensible de la Mère de Dieu auprès d'un ou de plusieurs membres de la communauté ecclésiale. En disant que l'apparition mariale est de l'ordre du signe, nous voulons préciser qu'elle est en quelque sorte un indice permettant aux croyants de se souvenir de la gloire du Verbe incarné, de cette gloire que seule la parole de vie lui révèle. Une véritable apparition mariale tourne vers le mystère du Christ ressuscité. De ce fait, elle se produit toujours en référence à l'Église, corps mystique et épouse du Sauveur du monde. En fait, ensuite, il fait une deuxième remarque. L'apparition mariale n'est pas l'objet d'un acte de foi ecclésial. Les apparitions n'ont pas pour rôle de fonder la foi, mais de la servir. Elles n'ajoutent rien à l'unique révélation, mais elles peuvent en être un humble rappel. Elles constituent des signes sensibles où Dieu se donne selon les capacités de celui qui le reçoit. On a pu rapprocher leur rôle de celui de l'icône qui, selon la tradition orientale et la théologie orientale, est une objectivation vraie, inspirée par l'Esprit-Saint, génératrice et porteuse de présence. Elles sont de l'ordre du charisme, c'est-à-dire un don de Dieu à un membre du corps pour le bien de tout le corps. Comme tous les charismes à caractère exceptionnel, elles n'ont pas à être recherchées, mais accueillies dans l'action de grâce, avec discernement et prudence. Il continue, l'apparition mariale n'a ni le même rôle, ni la même importance que les miracles du Christ relatés dans l'Évangile. L'apparition peut être un encouragement sur notre route de pèlerin en marche vers la Jérusalem céleste. Ce n'est pas un repère à négliger, mais ce n'est qu'un repère. Pour le dire autrement, l'apparition mariale nous invite à l'espérance. Il fait une troisième remarque. Le signe qu'est l'apparition mariale a besoin d'une vérification ecclésiale. Authentifié, il pourra attirer l'attention à la condition toutefois qu'on sache dépasser la matérialité des faits pour atteindre leur vraie signification. Dernière remarque, une apparition mariale reconnue rappelle à celui qui en a besoin que le royaume de Dieu est à la fois déjà là et qu'il vient. C'est-à-dire qu'elle est au service du peuple de Dieu en marche vers les noces avec l'agneau. Après sa vérification ecclésiale, l'apparition mariale appelle à préparer dans la charité l'avènement plénier et définitif du royaume de Dieu. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Enfin, Mgr Henri Brincard se plaisait à parler aussi d'une vie mariale. Ainsi, chaque fois qu'il prêchait des retraites à des religieuses, exercice qu'il aimait beaucoup, même s'il disparaissait souvent, mais pas une prieure de Carmel qui l'avait invité, m'avait dit « Ah, il est venu prêcher, on a commencé glorieusement, mais au bout de 2 jours, il a eu un impératif, il est parti. » Alors, il est revenu. Puis, en cours de la retraite, parce qu'au Carmel, c'est un peu long, les retraites, c'est vrai. Deuxième étape, il a dû encore s'absenter. Et elle me dit, nous avons terminé avec le père Bobine. Je dis, c'est quoi le père Bobine? Elle me dit, avec des cassettes. Ah! Donc, dans ses retraites, il aimait parler de la vie mariale. Et qu'est-ce que recouvre cette expression? Et qu'est-ce que ça signifie, la vie mariale? Donc, la vie mariale, bien évidemment, c'est une vie vécue avec mari et par mari. Mais là encore, laissons la parole à Mgr Henri Brincard. Alors qu'il prêchait une retraite à des religieuses, Mgr Henri Brincard précise alors ce qu'il entend par vie mariale. Il explique aux sœurs, la vie mariale, c'est pratiquer la charité fraternelle avec mari. Chacun doit, par des chemins qui lui sont propres et dont on ne peut indiquer que la direction générale, tout faire avec Marie, pour Jésus, à la gloire du Père. C'est cela, la vie mariale. La dévotion mariale, c'est admirer la Vierge comme modèle, la recevoir timidement comme mère. La vie mariale, c'est être en son sein, comme le petit après sa conception. Une âme mariale se caractérise par une foi forte et courageuse, par une espérance ardente, par une charité sans limite, par une constance dans l'épreuve, regardée de manière divine comme le chemin du plus grand amour parce qu'il passe par la croix. On reconnaît bien son style. Dans un autre passage, il insiste encore en ajoutant « Une âme mariale se distingue d'autres âmes » non pas par de belles paroles sur la Sainte Vierge. Soyons sobres quand nous parlons d'elle. L'âme mariale se distingue des autres par le zèle qu'elle met à accomplir la mission sacerdotale, prophétique et royale reçue au baptême. Voilà des signes qui ne trompent pas. Une telle âme parlera peu de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie parlera beaucoup à travers elle. Il ne s'agit pas de faire de grands discours sur la Vierge, il s'agit de s'en remettre à elle de telle manière qu'elle puisse exercer sa maternité royale. Mgr Henri Brincard aimait à montrer, conséquences pratiques, parce que avec lui, toujours la spéculation entrait dans le pratique, il disait que la vie mariale nous dispose à accomplir la volonté de Dieu. Et dans une retraite, il explique aux sœurs, et ça c'était drôle parce qu'on se sentait concernés, il explique aux sœurs l'importance du recueillement intérieur. Et il leur dit, il y a des personnes qui sont toujours agitées. Je me sentais concernée, moi. Oui. Puis alors il ajoutait, vous en avez d'autres qui sont très actives sans être agitées. Quelle est la cause de cette différence? La contemplation. Et il disait, sous la statue de Sainte Marthe, à Tarascon, il y a une légende. Sollicitata non perturbata, ce qui signifie en langue moderne, harcelé mais pas agité. L'agitation ne vient pas de ce que nous faisons, mais de l'état de notre cœur. Si notre cœur est tourné vers le Christ, dans la foi, l'espérance et l'amour, il y a dans notre cœur cette paix profonde et une joie intense. Mais si notre cœur est partagé entre un regard sur le Christ et un regard sur nous-mêmes, ces deux regards entrent en conflit et provoquent une agitation en nous. C'est l'amour propre qui provoque l'agitation, c'est-à-dire un amour désordonné de nous-mêmes. Et il ajoutait, comme la Vierge Marie, nous devons toujours être prêts bien que jamais prévenu. Mystère qu'on expérimentait en travaillant avec lui, parce que tout à coup, on découvrait qu'il y avait 3 personnes ou 4 de plus au repas. On découvrait qu'il avait invité un évêque qui était dans le jardin et qu'il avait oublié. Et, vous voyez, il fallait se précipiter ventre à terre pour introduire ce prélat, vous voyez, au mieux, vous voyez. Courir, savoir où il était pour lui dire, aïe, 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 il y a quelqu'un, venez vite. Vous voyez. Et c'est une chose qu'on a beaucoup vécue. Vous voyez, toujours prête, jamais prévenue. Et ça vous donne une grande disponibilité intérieure merveilleuse. Mais il faut avouer qu'une fois où je m'étais trompée, et c'est moi qui avais mis deux rendez-vous à la fois, vous voyez, important dans la même heure, je lui ai dit « Ah, toujours prêt, jamais prévenu. » Pour conclure cette intervention, et alors que notre monde connaît des guerres en divers endroits de notre planète, rappelons que Mgr Henri Brincard aimait à évoquer la Vierge Marie sous son vocable de reine de la paix. Et voici ce qu'il écrit à son propos. « Prier Marie, reine de la paix, signifie nous tourner avec elle vers le Christ qui nous offre la paix de Dieu. Prier Marie exprime aussi notre volonté de la recevoir et de recevoir le don inestimable de la paix. Marie nous pousse à nous engager en faveur de la vraie paix, celle qui vient de Dieu, et de ce fait, à ne pas nous laisser séduire par les simulacres que propose un monde épris de puissance. Avec Marie, enfin, travaillons à notre paix intérieure, en nous réconciliant avec Dieu et avec nos frères. Nous deviendrons ainsi les artisans de paix que loue le Seigneur dans les Béatitudes. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je terminerai mon propos par une maxime qu'il aimait à redire à ceux qui venaient le voir. Gardez Marie et elle vous gardera. »